Quatrième partie. Chapitre 15. À l'œuvre. Jamais nous n'en viendrons à bout, dit Ferdine. Et la petite Mathilde Roux, perchée sur une haute chaise à côté d'elle, les yeux baissés sur le bas qu'elle tricotait comme une grande personne, la petite Mathilde soupira en écho plaintif. Jamais nous n'en viendrons à bout. Quel dommage! Il tombe sous le sens, poursuivit Ferdine, afin de se démontrer à elle-même les impossibilités de la situation, que je ne saurais raccommoder en une heure ou une heure et demie, chaque soir, trois petites chemises et deux petits tabliers, ni toi tricoter en un jour un bas entier. Pourtant, c'est la tâche qu'il faudrait finir si nous désirons que tout soit en ordre pour le retour de ta maman dans une semaine. Je voudrais bien être plus habile de mon aiguille. « Oh, mademoiselle !» protesta Mathilde, qui vivait dans un état d'admiration chronique pour Ferdine et qui en maigrissait, tant elle mettait d'ardeur à plaire à cette jeune bienfaitrice adorée. « Non, non, je n'entends rien aux petites affaires d'enfants. Les petites culottes, surtout, me passent absolument. Celle de Georges aurait grand besoin d'être remise en état pour dimanche. » Ferdine, soucieuse, devenue mère tout à coup de six marmots au trousseau très insuffisant, se penchait sur une grande corbeille où elle avait entassé, les soirs précédents, tout un régiment de petits bas troués, de petites chemises déchirées, de jupons déjà bien rapiécés et des petites culottes aussi larges que longues, naïvement taillées dans le gros drap ou la mylène des vieux pantalons du grand-père. Sur la table, des écheveaux de laine brune sortaient d'un paquet entrouvert. Une pièce de lainage gris foncé déroulait ses plis souples sur les raides cassures d'une grosse toile écrue. Madame Miserlet avait envoyé, avec un grand panier de provisions, tout ce qu'il fallait pour faire des bas, des tabliers et des draps neufs, mais la grande difficulté était de confectionner ces objets en cette saison de l'arrière-automne où Mademoiselle Menton et sa sœur, les seules couturières du village, avaient toute leur journée prise et ne rentraient pas même le soir car elles travaillaient dans les fermes et les hameaux voisins. Mademoiselle Nel s'était bien engagée à tricoter une ou deux paires de bas qui n'avançaient guère, la vieille dame d'Atours étant tout absorbée dans ses souvenirs dont elle élucidait chaque matin plusieurs chapitres pour ses jeunes secrétaires. Louise était comme Ferdine, peu experte en raccommodage. La besogne n'avançait pas. Dès le soir où elle avait ramené Jean-Jean à la maison, Ferdine s'était résolue à consacrer toutes ses soirées au petit Roux, dont l'isolement pesait sur elle comme une responsabilité. À 6 heures, quittant les bureaux, elle remontait de son pied léger vers le village où l'attendait, sous le joli toit des Trois Pigeons, l'accueil bienveillant et surtout correct de Madame Beaugivy, ainsi qu'un petit souper appétissant pour elle et Monsieur Nantu. Mais Monsieur Nantu arrivait tard. La cérémonie d'ôter ses pantoufles au bureau, de chausser des bottines, de rentrer chez lui, puis de s'y déchausser et rechausser, lui prenait du temps. Ferdine soupait seule le plus souvent, mettait les bouchées doubles au grand chagrin de Madame Beaugivy, qui eût préféré un peu plus de cérémonie. À peine avait-elle fini de rouler sa serviette dans le rond de vieil argent qui portait ses initiales et que Louise lui avait donné, qu'elle s'enveloppait d'un châle pour courir chez ses enfants adoptifs. « Pas encore couché ? » s'écriait-elle en entrant. « Nous n'aurons la paix pour nos raccommodages que lorsque la petite nichée dormira. » « Vous savez bien, mademoiselle, faisait Mathilde contrite, qu'ils ne veulent pas m'obéir. Il n'y a que Cécile, parce qu'elle est trop petite pour descendre du lit toute seule. Ça leur fait trop de peine de ne pas vous attendre, surtout à Jean-Jean. Où sont-ils, tous ces petits bécassons ? Faisait Ferdine ouvrant de grands bras, et puis les appelant comme on appelle de petits oiseaux. « Pilé, pilé, pie !» Avec une gaieté qui était chose bien nouvelle et délicieuse pour ces bambins, car ils avaient été aimés par leur pauvre maman si déprimée, d'une tendresse dolente et peu expansive. Jean-Jean était le préféré, un peu trop sensiblement sans doute, car Ferdine ne possédait pas encore une bien haute sagesse éducatrice. Jean-Jean avait le droit de choisir l'histoire qu'il voulait qu'on leur contât à tous avant d'aller dormir. Mais à 7h30, que le héros fut en train de tailler en pièces un géant, ou que la belle princesse vint à peine d'être métamorphosée en hibou, Ferdine s'arrêtait brusquement, les embrassait à la ronde, puis, faisant tourner Jean-Jean sur ses talons comme un pivot, elle défaisait le premier bouton de son petit tablier. À part ce bouton-là, Jean-Jean se déshabillait tout seul comme un homme. Ferdine avait institué un concours de vitesse entre lui et Georges, avec pour prix une pastille de chocolat décernée à celui qui entrait le premier dans la couchette. Et il fallait voir ces deux gaminets s'essoufflant, tirant souliers et bas avec fièvre, se surveillant du coin de l'œil, désolés si quelque cordon se nouait dans ce trop de hâte. Ensuite, on faisait les prières, chacun la sienne, l'un après l'autre. Georges était très fier de réciter ce qu'il appelait « ma poésie », une prière en vers dont les termes étaient fort au-dessus de sa portée et qui commençait ainsi « Au seuil de la carrière, soutiens mes pas errants ». Jean-Jean, humilié de ne savoir dire encore qu'une prière enfantine, l'humble litanie des petits qui demandent au bon Dieu de bénir maman et mes frères et mes sœurs et la biquette et tout le monde, Jean-Jean, quand il avait dit « Amen », voulait absolument dire « ma poésie aussi » et commencer « Petit poisson, tu vis dans Londres et moi, j'habite une maison ». Mais il s'endormait généralement avant d'avoir achevé la seconde ligne. Enfin, les derniers pépiments des oisillons se taisaient dans les deux nids, le grand lit où Laurette, une malice de 6 ans, se pelotonnait avec Cécile la cadette, petite timorée qui avait toujours peur que Mathilde ne trouvât pas de place quand elle viendrait dormir. Et la grande caisse basse qu'on appelait la couchette, où les trois petits garçons s'arrangeaient en quinconce. Mathilde était la grande fille raisonnable qui reste debout quand dorment les petits pour causer avec sa maman des tracas du jour et elle gardait, en parlant à Ferdine, son ton de petite femme soucieuse. On étalait sur la table les menus vêtements qu'il fallait vite raccommoder, la blouse de Georges pour que le petit homme pût aller à l'école le lendemain matin et le chapeau de Laurette dont un gros chien, cette bête féroce que les chaumes devraient bien abattre, avait déchiré l'aile. Ferdine pensait à la pauvre mère, étendue si blanche et si faible encore sur son lit d'hôpital, à l'incessant labeur, aux soucis monotones et rongeants des pauvres femmes qui jamais, jamais n'ont fini leur besogne. Et son ambition maintenant était d'accueillir la convalescente à son retour dans un logis tout propre et gai, tiré à 4 épingles, avec des armoires en ordre festonnées de papier blanc, avec une vaisselle brillante et des étains bien frottés, et la douzaine de ceci et de cela mise au complet, avec la petite lingerie des enfants bien raccommodée, les bas d'hiver tout prêts, avec des draps neufs sur la tablette de la garde-robe et 2 ou 3 bons jupons de laine pour la maman. Qu'était-ce que 10 doigts, qu'était-ce que 2 heures chaque soir pour accomplir tant de travail? Toute la journée, Mathilde, que sa qualité de petite maman provisoire dispensait de l'école, Mathilde frottait, écurait, poussait dans les coins noirs l'intrusion inusitée de la brosse et du torchon. Et le soir, Ferdine, qui n'en savait pas beaucoup plus long que la petite, inspectait la besogne faite. Mathilde s'entendait aussi pas trop mal aux ourlets et aux coutures faciles. Elle ourlait les draps neufs avec crainte et tremblement. Tout le reste incombait à Ferdine, et, phénomène désespérant, la haute pile de raccommodage, vaillamment attaquée chaque soir, diminuait à peine, car chaque jour y ajoutait le total des accrocs quotidiens. Les grandes sœurs qui lisent ceci, préposées aux soins de la corbeille où affluent à chaque lessive les bas troués de 5 ou 6 petits frères et sœurs, comprendront les sentiments de Ferdine qui, tout en tirant l'aiguille, se répétait le vieil adage « Travail de femme est aisé, mais ne finit jamais ». « Grand dommage, en effet, » répondit-elle au soupir de Mathilde. « Quel soulagement et quel repos c'eût été pour ta pauvre maman de n'avoir pas un seul point à faire pendant des semaines et des semaines et de sentir toutes choses parfaitement en ordre. Maman va se remettre à coudre et coudre le soir en rentrant de la fabrique comme elle le faisait avant d'être malade. La nuit du samedi au dimanche, bien des fois, elle ne se couchait pas. » Et moi, quand je me réveillais et que je ne la trouvais pas dans le lit à côté de moi, je me levais pour lui chauffer du café. Tu n'as que trop l'habitude des heures tardives, pauvre petiote, dit Ferdine avec compassion, remarquant que la fillette redressait avec quelque effort son petit buste maigre et clignotait des paupières comme les petits chats qu'on tire brusquement de leur sommeil. Roule ton tricot, Miquette, et va dormir. Chaque soir, Mathilde jouissait délicieusement de se laisser border par la main vive et tendre de Ferdine, puis de dire sa prière à haute voix comme les petits, elle, accoutumée à considérer ses 8 ans comme l'âge de raison, auquel la douceur des caresses n'est plus accordée. Ferdine continuait à travailler jusqu'à 10 heures, puis elle éteignait la lampe et s'en allait. Et les 6 enfants de la veuve restaient seuls à la garde de Dieu, dans leur petite cambuse qu'on ne songeait point à fermer. Ils n'avaient personne à craindre depuis que leur méchant grand-père était sous les verrous. Donc Ferdine, songeuse, tirait l'aiguille et Mathilde, se faisant menue sur les oreillers du grand lit, entre Cécile qui, par habitude de bonne petite sœur, même en dormant, se collait à la paroi, et Laurette qui, au contraire, s'étendait dans tous les sens comme un jeune poulpe, Mathilde ne dormait pas encore. Elle n'osait rien dire, mais elle entendait fort distinctement un pas léger qui hésitait dans leur couloir pavé, sur le seuil, et une main qui frôlait la porte. Le cœur de l'enfant battit très fort. Serait-ce maman qui revient plus vite qu'on ne l'attendait ? Mais non, car Mademoiselle Ferdine ouvre la porte, sa lampe à la main, et pousse une exclamation de surprise. C'est vous, Mademoiselle Escandier, vous m'effrayez presque à cette heure. Mathilde se souleva sur son coude tout doucement et vit la demoiselle de la fabrique, celle dont on disait qu'elle se moquait de tout le monde. Elle était enveloppée d'un grand manteau noir et elle portait sur sa tête un fichu de laine grise, mince comme une dentelle. Mathilde écouta et ne comprit pas grand-chose à ce qu'elle disait. « Oui, répondait Lucienne, c'est moi. On m'a assuré que vous remplissiez un rôle fort intéressant auprès des petits roux et je suis montée ici en cette heure nocturne pour vous voir sous vos traits de bienfaitrice. Non, non, je ne viens point vous annoncer que la fabrique est en feu ni vous inviter à risquer vos jours pour sauver le copie de lettres. N'avez-vous point eu peur en entendant un pas furtif sous les treillis de votre donjon ? Si vous avez rêvé dernièrement d'un noble étranger, vous vous êtes dit « voilà les souliers de mon rêve » et ce n'était que mes ordinaires souliers à moi. Vous parlez si souvent du noble étranger, du bel inconnu, dit Ferdinand en riant, qu'on pourrait en conclure que vous y pensez beaucoup. Qui sait, ah, qui sait, répliqua Lucienne de son air ironique, si le sentiment ne se loge point sous mon écorce râpeuse, aussi bien que dans l'enveloppe transparente de ma sœur Idonie. L'écorce râpeuse de Lucienne était une peau fine et soignée qui faisait de ses mains 2 petits bijoux de délicatesse et pour l'étui, les batistes les plus exquises, les lainages les plus souples, bien que de façon austère et presque nihiliste. Au salon, nous dormions tous sans inconvénir. J'avais fini mon livre. Je me dis, payons-nous une petite aventure. Parcourons le village sous un déguisement. Et me voilà. Il faisait terriblement noir sous les frênes. Je ne suis pas très aguerri, car il n'y a pas si longtemps que nous habitions encore la ville. « Vous êtes venu seul ?» demanda Ferdine, étonnée de cette fugue. « En compagnie de ma conscience, qui ne me quitte guère, l'ennuyeuse personne, c'est même ma conscience qui me pousse ici. Car vous savez bien que partout où se fait une bonne œuvre, j'accours pour la critiquer. » « À quoi donc vous arrachez-vous les yeux ? » dit-elle en s'asseyant près de la table, plus abrupte, plus agressive encore qu'à l'ordinaire. « J'essaie de raccommoder ce ménage, mais je n'y parviens pas, » répondit Ferdine, qui n'avait qu'une méthode pour supporter Lucienne, celle de la laisser dire et de lui répondre aussi laconiquement que possible. « Je le crois bien, petite personne prétentieuse que vous êtes, petite conspiratrice, petite cachotière !» Ferdine, qui avait repris son ouvrage, leva les yeux très surprise, car le ton de Lucienne, avec une note voulue de plaisanterie, en dessous, frémissait d'exaspération. « Vous gardez tout pour vous, mademoiselle la vilaine gourmande !» poursuivit Lucienne, s'efforçant, on le voyait, de rester excentrique sans se trahir irrité. Votre amie Louise, du moins, elle partage celle-là. Elle a partagé Mademoiselle Nel avec moi. Et vous avez ici une demi-douzaine de marmots pour vous toute seule, jeune ogresse, et tous leurs petits bas à raccommoder, quand vous savez que nous sommes là, quatre sœurs assises en rond, à nous ennuyer comme des mortes et à craindre le jour du jugement où il faudra rendre compte de ses œuvres. « Oh, Lucienne !» s'écria Ferdine un peu effrayée. « Bon, voilà qu'elle me croit profane à présent, quand c'est la vérité vraie que j'exprime. Vous imaginez peut-être qu'il ne me pèse pas mon temps perdu ? Et quand vous avez la chance d'être obligé de gagner votre vie, vous vous permettez encore de nous voler les pauvres petites bribes de travail que nous pourrions faire dans le village ? Vous faites des chiffres tout le jour, ne pourriez-vous nous laisser au moins les orphelins à raccommoder ?» Lucienne avait une façon à elle de dire les choses, mais sa voix tremblait d'émotions sincères. Elle poursuivit. « Quand j'ai su que vous les aviez pris, ces orphelins, je vous ai presque détesté. Oui, mademoiselle, cela vous étonne? Vous pensez que chacun vous adore, comme Louise? Mais je vous ai détesté pendant 4 ou 5 minutes. C'est rare, cela, des orphelins, et vous en prenez 6 pour votre parti. Égoïste! Et vous n'en venez pas à bout de raccommoder ce ménage? Pourquoi donc n'envoyez-vous pas cette grande corbeille à Jeanne-Marie? Ça la changerait des paravents. Elle est très adroite, Jeanne-Marie. » Croyez-vous vraiment, s'écria Ferdine, entrevoyant un secours inespéré, que votre sœur m'aiderait? Certainement, vous auriez dû le lui demander tout de suite. Quel orgueil est-ce là que de vouloir suffire à tout? Je me sens au contraire très insuffisante, dit Ferdine, car je n'ai pas beaucoup de talent pour l'aiguille. Un grand cri en cette seconde partit de la couchette. C'était Jean-Jean qui se réveillait d'un cauchemar, comme cela lui arrivait souvent au pauvre petiot énervé par les scènes de l'affreux grand-père ivre. Lucienne, plus vite que Ferdine qui posait son ouvrage, courut au fond de la chambre, vit avec étonnement 3 petites têtes. 6 petits bras de ci, de là, parmi la couverture en désordre, et Jean-Jean, tout effaré, montrait de son petit doigt, contre la muraille, l'affreuse image de rêve qui lui avait fait peur. Lucienne saisit le bambin, attrapa au hasard, sur une chaise, le jupon de Mathilde, afin d'en envelopper 2 petites jambes qui se crispaient et se cachaient, comme pour échapper à une main invisible. Puis sa joue s'approcha, douce et fraîche, de la joue enfiévrée de l'enfant, s'y appuya. Et ce murmure tendre, qui est la consolation des petits désolés, sortit, comme par un maternel instinct, des lèvres de Lucienne. Jean-Jean ne pleurait plus. Bientôt, il raconta en mots entrecoupés qu'il avait vu un vilain homme noir là-bas dans le coin. Mais Lucienne, le berçant tout doucement, lui assura qu'il se trompait, qu'au contraire, le bon Dieu avait envoyé pour se tenir auprès de la couchette un bel ange tout blanc, et que plus vite Jean-Jean fermerait les yeux, plus vite il verrait le bel ange. « Comment s'appelle-t-il, ce pauvre mignon? Quel âge a-t-il ? » demanda Lucienne, revenant, toujours avec l'enfant dans ses bras, s'asseoir auprès de la table. « Vous ne vous doutiez pas que j'aime les enfants ? Moi non plus, à peine. » C'est-à-dire, je savais très bien que je les préfère aux grandes personnes. Écoutez, Ferdine, remarquez que je vous appelle Ferdine, cela vous donne la mesure de mes sentiments. Je vous ai fait une scène tout à l'heure. Mettons que j'ai été fort ridicule, et passons. J'étais venu exprès pour vous faire une scène. Vous nous bouleversez la conscience en nous parlant de Mademoiselle Octavie et de la nécessité de donner sa vie au bien et d'un tas de choses sublimes. Et puis, lorsqu'une occasion de faire du bien 2 heures par jour se présente, vous la gardez toute pour vous. Oui, j'avoue que j'étais un peu exaspéré. » Jean-Jean s'était rendormi. La chambre était silencieuse et Mathilde se demandait pourquoi les 2 demoiselles, après s'être, comme il semblait, querellées, ne disaient plus rien. Lucienne, la joue appuyée sur sa main, regardait Ferdine. Et Ferdine, les yeux pleins de larmes, sentait monter en elle une grande douceur, une grande paix.